Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. You got that thing that
I've been looking for. Been running around for so long. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Les mecs que je veux ken. Je m'appelle Rosa Burstein, Burstein, et je fais des blagues sur ce nom de famille très compliqué dans mon spectacle Tenir debout tous les samedis 20h à la Petite Loge, le plus petit théâtre de la capitale où ont commencé les grands Haroun, Verino, Gaspard Proust, Marina Rollman, Nora Hamzaoui. C'est dans le 9e, aux 2 rue La Bruyère, métro Saint-Georges ou Pigalle. Venez, on ira boire des verres après la représentation et vous me ferez des retours sur le podcast. D'ailleurs, vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous fait très plaisir à mon producteur, Areski Sugar et moi-même. Bon épisode, bonne écoute, bisous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te recevoir, Noam Hosni.
Ravi d'être là, ça fait très plaisir.
Et alors moi j'aime bien commencer chaque épisode avec un petit poème que j'ai écrit pour l'invité.
Ouais, j'aime bien ce moment. J'ai vu celui de Seb il n'y a pas longtemps.
Ah ouais, ok, cool.
Je me suis dit, si t'arrivais à être aussi, aussi cool avec Seb, je pensais que ça allait.
Ouais, Seb, il y avait beaucoup de miel pour être à l'aise. Toi, je me suis dit que je pouvais être beaucoup plus sincère. Le tien est moins flatteur et plus direct.
Bah, ça me fait plaisir aussi.
C'est parti. Noman, physiquement, il y a un petit côté prince guerrier d'une région du sud de Westeros dans Game of Thrones, genre Dorne. Noman fouettant un mammouth dans une langue inventée. Un personnage assoiffé de sang auquel on s'attacherait et qui se déplacerait toujours avec un harem de femmes sensuelles de toutes les régions du monde. Noman avec sa petite voix fluette qui cache un furieux boxeur. Noman sans limite, sans capote. L'impression que Noman n'a peur de rien. En tout cas, pas de choquer, de parler de sexe sur scène comme plus personne n'ose trop le faire en ce moment. Il faut être clean, tout public, familial. Alors quand Noman vient détailler l'enfer des meufs qui puent de la chatte, c'est un bain de jouvence. C'est la fraîcheur de l'Hudson, où l'on a peur que Noman se sauve. Noman, bientôt new-yorkais.
Bientôt californien, j'espère.
Ah ouais.
En tout cas, ouais, j'espère partir aux États-Unis. Ouais.
Ça, c'est ouf. Ça, c'est un truc
dont... Merci pour le...
Ouais, c'est vrai.
Ouais, ça fait plaisir.
Bah, en fait, oui, Game of Thrones, et je me suis renseignée, ta mère est d'origine irakienne, c'est ça?
Ouais.
C'est ça. C'est d'où, je pense, physiquement, il y a quelque chose...
La Mésopotamie. J'ai
été chez ouais, clairement.
Il n'y a pas longtemps,
ouais.
Il m'a fait un délire, il m'a dit...
Perse.
Ouais, il m'a dit... Alors, ouais. Donc, il te demande d'enlever le haut, et c'est un mec, un docteur, ouais. Et là, il me fait... Le guerrier perse.
Ah, mais oui, c'est ça, non, mais c'est vrai, côté Nabucodonosor, quoi, c'est ouf.
Ouais, bah écoute, ça fait... je le prends bien.
Bah ouais, non, mais c'est un compliment, clairement. Toi, t'habites où, quand, à Paris?
Dans le Marais.
Ah, oh, sympa.
Ouais. D'ailleurs, ça m'avait inspiré un de mes passages, parce que c'est le quartier, le Marais, c'est vraiment juif et homosexuel.
Ouais.
Du coup, je voyais tous les juifs. C'est un des sketchs qui a été viré d'Instagram pour Organisation Dangereuse.
Oh, waouh!
Wow. Ouais. Ça m'a fait rire. Bon, il est encore sur YouTube, heureusement, mais j'avais mis. D'ailleurs, je l'avais posté deux fois sur Instagram. Je l'ai posté une première fois, j'avais pas trop de followers. Puis il est passé, et puis la deuxième fois, je pense qu'il y a plein de gens qui ont
réagi.
Ouais, réagi. Et tu vois, ce politiquement correct qui plane sur. On pense. Alors, c'est bien les réseaux sociaux, ça permet de vraiment étendre la liberté d'expression, etc. Et puis en même temps, dès qu'une plateforme devient trop connue,
ouais.
Ça tombe. Alors, ça dépend des politiques de chaque plateforme. Je sais que Twitter, par exemple, tu peux voir des beats.
Ah ouais,
sur Twitter,
c'est
que tu peux pas voir sur Insta, ouais.
Ni sur Facebook. Je crois que ouais. Tout ce qui est chat, beat sur Facebook.
C'est.
Ouais. Je crois que même que le tableau L'origine du monde de Courbet, tu sais, avec. Ouais.
Ah, il est en. Il est en...
À, mon avis,
à ce moment-là, t'enlèves Caravage, ouais. T'enlèves.
Ah ouais. C'est ouf. Hein.
J'ai vu quoi? J'ai vu une expo incroyable à Angers. Ça s'appelle les tapisseries de l'Apocalypse. Alors les mecs, ils sont dans des délires complètement ouf, ça pleut du sang, et des trucs qui sont complètement... ouais, c'est gore total.
Ouais, ouais.
Et bon, à l'époque, je me faisais une idée marrante parce que je voyais ça, et le mec qui a fait ça, c'est un artiste méga connu de l'époque.
Ouais.
Je sais plus son nom, mais en tout cas, je me rappelle de son œuvre, donc les tapisseries de l'Apocalypse. Et je me disais, ça devait être, ça se trouve, à l'époque, il était considéré comme le Booba de l'époque. C'est les gens, ils disaient, oh, attends, mais t'as pas vu les tapisseries de l'Apocalypse?
Ça envoie, ouais. Mais cela dit, aujourd'hui, la violence, je pense, choque beaucoup moins que le cul, tu crois pas? Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, au cinéma. Alors si maintenant, là, cela dit, le film Joker, il y a eu une petite censure, un petit... certains cinémas qui voulaient pas le projeter, qui avaient peur que ce soit un appel à la... tu vois.
Mais... Je l'ai vu, Joker.
Ouais, t'en as pensé quoi?
J'ai adoré.
Moi aussi, j'ai adoré.
J'ai avec ma femme, on a kiffé, franchement... Ouais. La performance Joaquin Phoenix c'est
dingue.
Bah ouais, non, mais c'était un bon film.
Un bon film,
très bon film, ouais. Même.
Et en plus, sur le métier d'humoriste, c'est touchant, hein,
ouais,
je trouve.
Ouais, alors c'est assez marrant parce que donc Cécile, ma femme, m'a fait une réflexion assez étrange. Elle m'a dit, putain, mais c'est ouf parce que donc à la fin, il a une espèce de discours, on va pas spoiler.
Ouais.
Elle m'a dit, moi j'étais assez d'accord avec ce qu'il disait, tu vois. Parce qu'en vrai, ça pose les questions, c'est que...
Qui rit de quoi? La société décide de ce dont on doit rire, c'est ça?
Ouais.
Ouais.
Et bon, après, ce qui fait que on peut penser pareil, et après, qu'est-ce que tu fais derrière, c'est ça?
C'est ça, mais ouais, moi, c'est vraiment ce dont aussi je voulais parler avec toi, c'est de la question du politiquement correct et de la censure, et est-ce que tu penses qu'il y a une différence en France et aux États-Unis? Et toi, de ton expérience que tu as vécue, bah, récemment, de la censure, donc sur les réseaux, et même dans certains plateaux, ouais, où on te demande
même
de...
Même certaines villes.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Alors là, il y a eu le cas, par exemple, du Paname. C'est marrant parce que j'en ai parlé à quelques humoristes, etc., et j'ai l'impression que c'était comme un truc de polichinelle, il fallait pas en parler, etc. J'ai fait un sketch qui a fait énormément rire. Alors, on a voulu me faire croire que le sketch n'était pas marrant, et du coup, il y a eu un truc. Alors, manque de bol pour ce passage-là. Au moment où on m'a dit qu'il fallait plus jamais refaire ce sketch.
Tu peux nous dire de quoi parle le sketch un petit peu?
Bah, c'est des meufs qui puent de la chatte.
Ah oui, c'est celui-là, d'accord. Ouais. J'ai entendu, hein, qui est drôle, moi je trouve.
Bah voilà, parce que nous on pue de la bite, il y a des meufs qui puent de la chatte, ouais. Ça m'est arrivé, c'est une histoire, voilà, je suis tombé sur une meuf qui puent de la chatte,
ouais.
Et je trouve, bah tu vois, c'est un truc, ouais. Je pense que plein de mecs sont tombés sur des meufs qui puent de la chatte,
bien
comme
sûr.
Plein de meufs sont tombés sur des mecs
qui puent de la bite.
Voilà,
ouais.
Et donc voilà, j'essaie d'aborder ce sujet-là, les gens rigolent, et j'ai filmé, alors. Je vais mettre en ligne le spectacle très prochainement, mais ce moment-là, je pense que je vais mettre une petite pastille le jour où il a été censuré. Et parce qu'il y a un débat qui s'ouvre réellement, et pourtant...
Tu veux dire sur le féminisme?
Sur la liberté d'expression.
Sur la liberté d'expression.
Ce qu'on dit. Alors, il se trouve qu'en France, l'humour est un divertissement qui voudrait peut-être familial, j'en sais rien.
Ouais.
Parce qu'il faut quand même aussi dire que dans l'univers anglo-saxon, je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en tout cas de l'Angleterre et aux États-Unis, les spectacles, comme au Paname, les humoristes préparent leurs spectacles dans ce qu'on appelle des comedy clubs. Les comedy clubs sont des lieux qui sont aux États-Unis interdits aux moins de 21 ans.
Mais oui.
En France, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, c'est un divertissement familial.
L'enfer. Moi, je t'ai vu sur scène, mais je suis aussi allée regarder plein de vidéos de toi sur YouTube où t'es quand même méga suivi. T'as 144 000 abonnés, c'est quand même un truc de ouf.
Ouais, je crois que ça a monté.
Ouais. C'est dingue.
Ouais.
Et il y avait une vidéo au point virgule de l'un de tes spectacles.
Ouais.
Et c'était hyper détendu, hyper lumineux, souriant. Et puis, tu interagis énormément avec les gens. Et ce qui est étonnant, c'est que parfois, tu sens, dans les interactions avec le public, dans les vidéos, tu sens l'humoriste qui attend que la personne dans le public ait fini de parler pour pouvoir repartir sur ses blagues. Alors que toi, t'es là et t'écoutes. Et on se dit, mais la personne pourrait parler pendant 2 heures. Il écoute et puis tout tranquillement, il revient. Et puis, ou alors, je sais plus, c'était sur une autre vidéo. Ah oui, non, ça, c'était pas au point virgule. Mais alors, j'ai trouvé la punchline excellente dans la vidéo sur « Amoureux au premier regard ».
Ouais.
Quand tu dis « Les filles, un romantique, c'est juste un pervers qui vous plaît ».
Ouais.
Tellement drôle.
Ouais, c'était un... En plus, à cette époque-là où je faisais ce truc-là, là, j'étais en toute remise en question
Ah ouais.
de moi. J'avais perdu 10 kilos. Et cette captation, donc là, il y avait tous mes potes qui m'appelaient pour savoir si j'allais bien. Et cette captation, je me souviens, c'était Kian qui m'avait appelé pour faire sa première partie. On parlait pas mal. Kian, il m'a vu deux, trois fois en dépresse.
Ah ouais.
Et du coup, là, j'allais, du coup, comme il était au casino de Paris, ça. Donc, c'était quand même une grande salle, ça remet
Donc t'étais un peu en dépression à ce moment-là.
complètement, en vrai.
Ah ouais.
Ouais,
D'accord. Suite à une rupture.
Suite à. Non, en fait, pour moi, la dépression, c'est pas un truc négatif. Déjà,
Ouais.
chacun la gère comme il veut, mais j'ai compris que j'avais fait des mauvais choix. Et du coup, bah, il a fallu me recadrer. Et parfois, il y a des chaos qui sont nécessaires dans la vie. Et puis là, j'ai tout ouvert. Et du coup, quand tu décides d'être honnête avec toi-même, l'image que tu vois dans la glace, ne reflète pas l'image que tu voudrais avoir de toi. Et du coup, j'étais pas content de moi. Je me sentais une merde à ce
C'est
moment-là.
toi qui avais fait de la merde
Ouais.
avec une nana ou dans ta vie ou dans tes choix.
Dans ma vie
Ah.
totale. Parce que, en vérité, parfois, en fait, à l'époque, c'est toujours compliqué. Donc, j'ai quitté donc la mère de ma dernière. C'était ce
D'accord.
moment-là où je quittais la mère de ma petite fille, là, qui a maintenant 2 ans et demi. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps. Et c'est compliqué de quitter
Ouais,
comme
ouais.
ça quand tout le monde te dit machin, mais qu'est-ce que tu fous, etc. Et de se dire, d'avoir le truc de dire, non,
J'assume ce choix.
ouais,
Ouais, je suis plus amoureux.
elle est bien cette femme, etc. Mais je ne suis plus amoureux.
Ouais.
Oui, il y a un enfant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et aujourd'hui ça se passe très bien, mais faut assumer qui on est.
Ouais.
Faut pas s'inquiéter, ça va aller. C'est
Ouais.
dur de prendre des décisions, en fait. Il faut vraiment mettre de côté tout ce qui est pression sociétale, familiale, culturelle, religieuse, et ça demande un travail énorme de se concentrer sur qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce qui est bien, comment puis-je me regarder dans la glace. Et mais de cette dépression, je sais pas ce qu'on peut appeler ça, mais c'est parce que vraiment je passais mes journées à chialer, mais de ça, qu'est-ce qui naît de positif? Et le fait d'avoir été dans cette honnêteté, je dis souvent que si j'avais, à ce moment-là de ma vie, si j'avais été homosexuel, c'est là que j'aurais fait mon coming out, si tu veux. Tu vois, j'ai commencé à. On m'avait beaucoup limité, par exemple, sur la beuh, je sais pas, j'avais 5 minutes sur la beuh où vraiment j'en parlais, pas de t'as vu les éléphants roses, quoi. Je disais vraiment, bon voilà, bah, je suis mon joint, voilà ce que je ressens, etc. Et si je prenais de la coke, je pense que je le dirais. Si, tu vois, je ne. Je dis pas, on est, faut arrêter de dire que les humoristes, c'est des exemples pour la jeunesse, quoi, tu vois?
Ouais, mon Dieu, bah bien sûr.
On arrive avec nos défauts et on essaie de les foutre, de balancer
Mais
ça,
quand même,
quoi.
tu vois, ça c'est très rare, ce truc que t'as, d'être sans filtre et d'être autant. Parce qu'il y en a plein qui, juste, même s'ils prennent de la coke, ils vont pas oser en parler ou même le dire, que ce soit sur scène ou en podcast ou quoi, par peur de déplaire en fait, par peur de perdre leurs fans, parce que aussi peut-être que c'est lié au Instagram, tout ça, où les gens veulent être ton ami, t'as ce truc de likability, ce truc de, tu sais, les titres de spectacle, ton meilleur ami, ta meilleure amie, etc. Et donc il y a un truc bizarre de l'humoriste doit être ton trop bon pote, donc quelqu'un que t'aimes, alors que j'ai l'impression que, tel que dans les comedy clubs aux États-Unis, l'humoriste, c'est aussi un peu quelqu'un dont tu as peur, enfin que tu respectes, mais qui te dit un truc. Ou que, moi, en tout cas, j'aime bien quand je vois un humoriste sur scène, non pas me dire ah, oh, j'ai trop envie de traîner avec lui, mais plus genre wow. Et tu vois, être là, genre oh, genre avoir du plaisir de ce qu'il ose dire. Voilà. De ce qui. Et c'est pas un truc politiquement incorrect, malsain. C'est pas un truc FN de ah oh ben on dit tout haut ce que tous les gens pensent tout bas. Et ben oui, les Arabes c'est chiant. Je sais pas, c'est pas évidemment que c'est pas ça le truc. C'est juste un truc de. Si l'humour c'est pas mettre sur la table, c'est perversion, tu te dis tu vois.
Même au-delà de ça, je trouve hyper intéressant dans notre travail déjà de pouvoir oser dire ce que quelqu'un d'autre n'oserait pas dire à notre place.
Ouais.
On a cette chance, on est sur scène, donc au moins faisons quelque chose. Et puis, après, il faut être marrant.
Ouais.
Moi, si demain quelqu'un va défendre une opinion qui n'est pas la mienne
Ouais.
et que le mec est super drôle,
Ouais.
Faut arrêter de croire que les gens sont fragiles. C'est pas pour autant qu'il va me convaincre, mais je peux rigoler sur son truc.
Ah, c'est très compliqué. Celle-là, mais juste avant, j'avais un copain qui me dit oui, ton spectacle, etc. Parce que dans mon spectacle, je fais un petit peu des blagues sur. Et je dis PD pas mal de fois, et sur les homosexuels refoulés. Et à un moment, je dis que je suis dans les sites de rencontres et que les mecs aujourd'hui hétéros parfois sont très efféminés, et que je vais en date et que le mec parle comme ça. Nanana, nanana. Et je dis c'est chiant, c'est compliqué de pas devenir homophobe des PD refoulés. Bah, si t'aimes la bite, va sucer des bites. Parce que les, faut pas faire chier les meufs en date. Parce que nous, en plus, tous les 4 mois, faut y aller, faut se forcer, faut dégivrer. Et je dis voilà, les gays, sucez-vous la bite, et vous, les femmes, forcez-vous à avoir des rapports sexuels non consentis. Non consentis. Et ensuite, à la fin, je dis, le titre de mon spectacle, c'est Tenir debout. Je dis, tenir debout, pas facile pour un PD qui se fait enculer, reste allongé, ce que je lui ai dit avant de la violer. Bref. Donc, je fais tout ce truc, etc. Puis ensuite, je dis, non, mais en plus, en vrai, si je voulais imiter un homosexuel refoulé, je le ferais pas qu'il parle comme ça. Un homosexuel refoulé, il dit, oh, je suis pas PD, sale PD, espèce de petit PD. Ça, c'est plutôt la voix d'un homosexuel refoulé. Et
d'ailleurs, tous les c'est vrai que ça, tous les homophobes, ça cache un truc très
étrange. Ouais, clairement. Mmh. Et en fait, j'en parlais avec ce pote, et il m'a dit non, qu'il est homosexuel. Et j'avais d'ailleurs pas mal de. J'avais aussi mes voisins la semaine dernière, mon spectacle, qui sont gays, qui se sont bien marrés, que ça n'a pas choqué. Mais là, il me dit, et par contre, ta blague sur le viol, il faut pas blaguer sur le viol.
On peut blaguer sur tout. Moi, écoute. Je vais te dire, de toute façon, tu vas toujours décevoir des gens.
Donc, toujours.
Si toi, tu es tranquille avec ce que tu penses et que tu peux défendre tes propos, j'avais fait une vanne à l'époque, c'était en mode bref de pétard. J'avais dit, si sur Terre, il n'y avait plus que des mecs, ben, je serais un gros PD.
Ouais.
Tu vois et, du coup, c'est plutôt cool. Tu te dis, bon, bah. Et on m'a dit, je ne sais plus quel. C'était un rédac chef, en plus, un journaliste qui m'a dit, non, mais si tu dis PD, c'est que t'es homophobe. Je dis que je pourrais être un gros PD, c'est avec des mecs, c'est clair.
Ouais.
Et puis, en plus, je me mettais dans la peau des homophobes qui vont dire PD. Enfin, tu vois, c'est. Et puis, il n'y a pas à justifier, il n'y a pas à s'excuser pour une
vraie. Ouais. En fait, le problème, c'est tous les jours. C'est que là, moi, je trouve que ça commence à être un peu lourd, un peu. Autant que ce soit des gens du public, que ça choque, en même temps. Je m'en fous.
Mmh.
Mais quand ça devient des professionnels, là, c'est compliqué de vivre avec la censure et de progresser. Tu vois, pareil, une directrice artistique d'un théâtre, où, pour ne pas citer de nom, mais j'avais une blague où je disais, voilà, je disais qu'en ce moment, j'étais très seule et que le seul contact humain que j'avais eu, c'était avec un mec d'Apple avec qui j'étais restée de 10h à 16h au téléphone, un technicien, et que, voilà, et que j'avais jamais autant appuyer sur Shift, Command, R, voilà. Et donc, je disais, à la fin, le mec, c'est mon fiancé, Adriano Cruz. Puis je disais, le problème, c'est que je sais pas à quoi il ressemble, Adriano Cruz. Je disais, ça se trouve, il a pas de bras, comme les bébés dans l'Ain, tu vois. Ses doigts d'argent, le mec, tu vois, il est là avec ses prothèses, etc. Elle m'a dit, bah non, tu coupes la blague avant les bébés dans l'Ain. C'est pas gentil pour les bébés dans l'Ain qui ont pas de bras. Et t'es là, mais la blague, elle est là. Tu vois.
Bah après, tu coupes la blague, non, cette blague ne me plaît pas, tout le monde a le droit de pas aimer une vanne, de pas trouver quelque chose de drôle, mais après c'est à l'artiste quand même de dire ce qu'il va jouer sur scène, et puis si le public ne trouve pas marrant, bah le public ne trouve pas marrant. Et moi je suis pas d'accord de dire, à partir du moment où t'es sur scène, j'ai plus du tout l'impression que le théâtre appartient à quelqu'un d'autre qu'à la personne qui est sur scène. Malheureusement en France, alors en France il y a un système un peu étrange, et c'est pour ça que j'ai décidé d'être indépendant. Déjà, les théâtres qui payent le plus, c'est les théâtres municipaux. Donc une production va produire un artiste, elle va l'envoyer en tournée. Alors déjà, ces trucs de tournée, de programmation, de salle. Aujourd'hui là par exemple, un producteur va miser sur toi et machin, il va vouloir te produire, il va dire bon bah voilà ton planning de tournée, puis il va te caler des dates pour 2021.
Mmh.
D'accord, parce qu'en fonction des théâtres municipaux, etc., parce que les théâtres municipaux, ils vont filer peut-être 10 000 balles pour faire ta date. Lui, il va se rembourser de tes dates parisiennes s'il a perdu de l'argent au cas où. Et sur 10 000 balles, allez, il va te filer 500 euros de cachet. Et puis, tu te retrouves dans un truc. Et si jamais le théâtre municipal, parce que c'est tenu, c'est des théâtres qui sont subventionnés, les élus n'ont pas aimé, parce que comment ils programment, ils prennent en première partie. Donc moi, par exemple, dans la ville de Valoris, j'ai fait la première partie de Boone.
Ok.
Pareil, c'était encore les pulls de la chatte. Et je crois que j'avais fait un truc sur l'anulingus, appelé plus communément Rimjob. qui est, bon, bah, un plaisir pour certains. un chemin vers l'enfer pour d'autres. Mais bon, les élus. Alors là encore, hein, dommage que j'ai pas filmé, mais les gens de Valoris ont kiffé, ont vraiment rigolé.
Ouais.
Moi je sors, je me dis putain, c'est cool, ils ont rigolé, ils vont me programmer. À l'époque j'étais chez Cholele, donc là, avec Boone, on était ensemble. Et le lendemain, bon déjà. J'attends qu'on... La nana me dit même pas bonjour à la fin du spectacle.
La c'est Boone.
Ouais, non, la programmatrice.
La ouais. Ouais, d'accord.
Elle arrive, elle félicite Boone Amin, machin. Elle me dit pas bonjour.
Oh, wow.
Donc elle me dit pas bonjour. Et même Boone lui-même est gêné. Et puis il fait Allez, Noman, la première partie, etc. Et là, encore pas bonjour. Elle fait non. Alors je lui dis déjà bonsoir, madame. Elle fait non, mais c'est pas du tout l'humour de Valoris.
Oh.
Voilà, elle me dit ça. Je lui dis, mais. C'est marrant ce que vous dites, parce que moi j'ai entendu des gens rire. Ouais,
ouais,
mais c'est pas. Je fais, votre ligne éditoriale est très étrange parce que. Ouais,
mais qu'est-ce que ça peut contrarier l'anulingus? C'est offensant pour qui? Pour les gens qui n'aiment pas l'anulingus?
Ouais, et puis au-delà de ça, je veux dire, depuis quand c'est une 5%
d'élus? Valoris n'aime pas l'anulingus?
c'est ça qu'elle me disait, quoi. Moi je lui ai dit que ça me faisait penser à une dictature, sa manière
grave.
De penser. Et du coup, elle a appelé la prod le lendemain. Non, parce que j'ai mis un post sur Instagram.
Ouais.
Et là, je sais pas qui de la mairie a appelé la prod. Et
Attends, ça fait vraiment France collaborationniste, quoi. Un gars de la mairie de Valoris qui allait appeler ta prod pour dénoncer le fait que on n'aime pas l'anulingus. T'es là, mais...
ils ont pas aimé aussi le fait que je les compare. En fait, sur Instagram, j'avais fait un post où je leur disais que quand c'est une minorité... qui choisit pour la grande majorité de ce qui est marrant ou pas, ça me faisait penser à une dictature.
Bah ouais.
Et du coup, moi j'ai trouvé ça cool que les gens de la mairie me follow sur Instagram.
Ouais. Mais... tu parles, c'était pour te surveiller, pour vérifier que tu...
Ouais.
Et c'est suite à ça que tu t'es séparé de cette prod ?
Pas que ça, mais je suis pas dans ce rapport d'artiste-produit, quoi. Je pense pas que ça soit à l'avantage des artistes. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre en avant ? Quel est ton but ? À moins vraiment d'avoir un mec... aujourd'hui, un artiste qui accepterait d'être produit, c'est vraiment au-delà de l'ego, quoi. Parce que je peux comprendre qu'il y ait des artistes qui veulent être produits pour leur ego.
Mm-mm.
Ça fait du bien. Puis au début, le producteur, il fait du bien.
Ouais.
Le producteur, il dit, c'est génial ce que tu fais, j'ai envie de te produire, on va aller loin tous les deux.
Wow.
Tu vois, c'est ça qu'on
dit.
Et puis, en vérité... aujourd'hui, c'est soit quelqu'un qui te soutient financièrement, clairement, et qui fait de l'affichage monstre dans Paris, et qui croit vraiment en toi, donc qui prend un risque, parce qu'il faut arrêter avec ce discours de producteur. Moi, quand un producteur vient me voir, c'est arrivé à chaque fois, il dit, bon, voilà, là, c'est le spectacle, là, c'est les chiffres, tu vois qu'on perd de l'argent. Et là, moi, j'ai envie de dire, non.
Ça, c'est ton taf, mec.
C'est même pas ça, c'est que n'importe quel businessman, si tu penses en businessman, il dit pas, je perds de l'argent, il dit, voilà, c'est un investissement.
Ben, bien sûr.
Donc, qu'on met... Et comme dans n'importe quel un restaurant, tu prends un risque. Quoi. Alors, soit tu mets la patate. Et puis, du coup, je me dis, en fait, je suis un investissement. Et puis, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui.
T'es une méga star.
Non,
et la reconnaissance,
en tout cas, on peut travailler.
Des gens.
Du travail. C'est-à-dire que moi je traite mon Instagram et mon YouTube comme certains vont traiter leur chronique France Inter. C'est-à-dire que j'y vais. Quoi. Je bosse et je fais mon truc pour moi. Alors, j'ai pas de cachet. C'est gratuit. Mais
t'as une rémunération de YouTube ?
Alors, j'ai les vidéos, pour la grande majorité, sont démonétisées.
Ah bon ?
Donc, je gagne pas d'argent avec YouTube. Mais c'est pour ça, quand on me dit, ouais, maintenant t'es YouTuber, je fais, non, mais je gagne pas d'argent avec YouTube, je gagne de l'argent en vendant des places.
Ouais.
Et
est-ce que tu trouves est-ce que les gens qui vont suivre quelqu'un sur YouTube sont forcément des gens qui vont aller payer une place de théâtre ? Parce que j'ai l'impression que parfois, c'est pas toujours le cas.
Bah, peut-être pas toujours le cas, mais en fait, il ne faut pas réfléchir comme ça. Alors, il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est que YouTube est un autre style de comédie club aussi pour moi.
Ouais.
Et un moyen d'expression incroyable, etc. Et l'autre chose, c'est que si tu penses toujours... Moi, je n'attends rien des gens. Je te jure que je fais par pure générosité. Et les gens ont du mal à croire, mais j'offre un divertissement gratuit, ça me fait plaisir. Et puis, on va être amené à se connaître. Moi, je mets mon travail.
Ouais.
Et on peut me critiquer sur mon travail, évidemment, mais après tout, ce que je vous offre est un divertissement gratuit. Nul ne vous oblige à le regarder. Si vous n'avez pas, vous pouvez ne pas regarder ce divertissement gratuit que je mets
à disposition.
Et ça me va bien.
Ouais.
Et ça me va bien. Ça me coûte du temps, effectivement. Parfois, ça me coûte de l'argent de pouvoir faire les choses, voilà, tu vois. Mais avant tout, ça me plaît de le faire.
Oui. Non, mais je comprends. D'ailleurs, moi, j'ai un peu le même rapport avec ce podcast. C'est-à-dire que je l'annonce en direct à mon producteur, mais je crois que j'ai pas envie qu'on ait de sponsor. Merde, il va me larguer. Mais c'est vrai que c'est... Bon, alors après, c'est peut-être pas bien, mais...
Tu peux en avoir. Ouais. J'en ai, moi, par exemple, sur les Fonce D, un des podcasts, on a un sponsor qui est une marque qui est en accord total avec l'émission, puisque c'est une marque de CBD, quoi, qui s'appelle Grineo. On a voulu faire des fleurs, etc. Mais c'est marrant parce que sur les deux, trois premières... J'ai oublié de parler d'eux. Et ils m'ont rien dit. J'ai parlé rapidement, mais je les ai pas vraiment mis en avant comme j'aurais pu. Maintenant, je les mets vraiment en avant parce que j'ai vu. Je leur ai dit une première fois. Je leur ai dit, écoutez, merci de sponsoriser, ça fait plaisir. Mais moi, c'est une émission où je suis foncé. Je parle de ce que je veux, de tout ce que je veux. Sans limite. Ok. Ils ont joué le jeu jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, on va construire avec eux plus que du sponsoring. On essaie de créer, là, on est en train de créer une marque de CBD. Wow. On essaie vraiment de faire les choses parce que...
Vous vous ressemblez, en fait. Vous vous rejoignez.
On se rejoint dans la ligne éditoriale de ce qu'on veut faire. Ouais. Et on se rejoint au-delà de ça. J'ai vite compris qu'il fallait créer quand même une espèce d'économie viable. Et ça, c'est un truc auquel je crois réellement et qui est aussi dur à intégrer pour beaucoup. C'est évident qu'aujourd'hui, on vit une ère incroyable où si tu aimes quelque chose et que tu es prêt à morfler, tu peux en vivre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à parler de bœuf, aujourd'hui, on me dit « Attends, mais c'est facile, tu parles de bœuf, hyper facile, donc voilà, t'as ta commu. » Je te garantis que quand j'ai commencé, tout le monde vraiment... Une minorité croyait. J'ai la grande majorité qui me disait que je faisais de la merde. Moi, tous les Instagrammeurs, là, les followers qui sont partis. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai perdu énormément d'abonnés que j'ai regagné après. Mais en fait, le truc, c'est la régularité, le truc de faire, etc., de travailler. Et puis, à la limite, moi, je me dis, je suis dans mon honnêteté, je fais un truc que j'aime. Ben, j'y vais à fond, quoi.
Oui, et en même temps, au contraire, maintenant, c'est génial. C'est-à-dire que... Mais alors, moi, d'ailleurs, j'aimerais bien venir dans ton podcast sur le joint, parce que si on doit parler de drogue, alors pour te dire, moi, mon rapport, c'est que à la marijuana...
Je n'allais vraiment pas fumer, mais si tu veux venir fumer avec moi...
Ça serait, je pense, une expérience, parce que... alors, moi, ma mère était une grosse fumeuse de cigarettes, sauf que, en fait, ma mère était genre très... genre journaliste, féministe, libérée sexuellement, etc. Et du moment où elle a eu des gamins, elle a tellement transféré d'ambitions et de projets qu'elle a arrêté de fumer et elle avait hyper peur que je fume au collège. Et en fait, tous les jours, elle me faisait du brainwashing de « il faut pas fumer, il faut pas fumer, il faut pas fumer, il faut pas fumer ». Et moi, je voulais tellement pas la décevoir que j'ai jamais touché une cigarette. Sauf que le fait d'avoir jamais touché une cigarette à l'adolescence fait que je ne sais pas inhaler. À chaque fois qu'on me donne un joint... Je te jure. Mais c'est pas une blague. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que résultat, ça, il y a deux réactions. Mais souvent, il y a un truc un peu masculin de « tu vas voir ce que tu vas voir, je vais te faire fumer. » Ouais. Et si tu veux, mais en général, ça ne marche pas.
Alors, si tu veux, je peux te proposer...
Du space cake. Là, voilà. Et les seules défonces que j'ai eues...
Par contre, tu vas partir loin.
Je sais. Alors, je serais ravie de cette expérience parce que les deux...
Je peux te donner un truc léger, si tu veux.
Avec grand plaisir.
Je peux te donner un truc qui va te faire l'effet d'un petit joint bien comme il faut.
Je sais même pas c'est quoi l'effet d'un petit joint. Moi, les seuls moments où je la ça m'a juste donné mal à la tête. Éventuellement, je me mets dans un coin parce que j'ai une migraine. Mais c'est les vrais genre.
Tu veux qu'on programme ça? On peut programmer. Je te donne un petit carré de chocolat. Je pense. Un petit truc à 20 minutes.
Et ça te coûte pas trop cher Comment tu t'organises?
T'inquiète pas, ça va. T'inquiète pas pour ça.
Mais parce que non, moi, les seules fois, donc j'ai été défoncée dans ma vie. Deux fois à l'herbe. Première fois, et à chaque fois c'était des space cakes, à 16 ans, quand je suis partie à Amsterdam avec ma meilleure amie de l'époque, et qui, elle, par contre, était une fumeuse, et elle écoutait du rock, elle était goth, et voilà, elle savait fumer, quoi. Et donc, on va à Amsterdam, et premier soir, elle essaye de me faire fumer, pareil, ça marche pas. Elle est un peu défoncée, mais elle a une défonce un peu. Je sais pas. Et ensuite, le deuxième soir, j'ai bouffé du... Et là, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que c'est le plus gros fou rire que j'ai eu de ma vie. Vraiment, j'en ai encore mal au diaphragme.
C'est marié avec des champis, ça.
Et je me souviens que j'y riais, et elle, elle n'a pas le même souvenir que moi, parce qu'en fait, on avait pris genre une chambre du Crous, tu sais, de trucs étudiants, et on était dans cette chambre, et je crois qu'on était sur des lits superposés, mais on était toutes les deux dans le lit d'en bas, et elle, elle était dans un délire un peu en mode, elle ressent rien, un peu en bad, elle était un peu dépressive, hein, cette pote. Et moi, tout d'un coup, je riais, et tout d'un coup, je me souviens que sa tête me faisait rire, et que j'étais là genre...
Tu lui as dit ça,
ouais, tête me fait... et que je la poussais et j'étais là genre, et, j'étais là genre et je me souviens que elle vivait un enfer, enfin ah bah elle me l'a raconté après, et qu'elle était comme ça et que moi j'étais là genre et que ça a duré des heures temps, et des heures. J'avais 16 ans, voilà. Ouais. C'était la première fois de ma vie où j'ai compris l'intérêt de la drogue, où j'étais là genre ok d'accord, je comprends, ouais, le délire, je commence à, tu sais, c'est comme quand t'as enfin du plaisir et que tu comprends pourquoi tout le monde en parle, tu vois, du cul, t'es là ok d'accord. Mais et la deuxième fois c'était en Haïti, et c'était pareil avec un space cake. Et je me souviens que dans une voiture, j'ai commencé à rire du mec qui conduisait. Et ensuite, mais pareil, c'était une espèce de fou rire.
Ça, vous le connaissez.
Et, ouais, avec ensuite un délire de puissance. Parce que je me souviens, quand je suis rentrée à l'hôtel, on tournait un film sur les révolutions étudiantes en Haïti. Et que je suis rentrée dans l'hôtel dans lequel il y avait l'équipe du film. Et que j'avais vraiment la sensation d'être la vérité. J'étais là, mais je suis la vérité. Je suis, ouais. Et que je me souviens d'avoir essayé de persuader des gens. Là, ouais, hey, je suis la vérité. Et qu'ils souriaient. Et ensuite d'avoir été dans mon lit. Et là, très cinématographique, d'avoir senti de l'eau sous le lit et d'avoir senti les escaliers de l'hôtel qui bougeaient. C'est et génial. De voir là genre wow, wow, wow. Et je me souviens là, attends, wow, 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 wow.
C'est de faire ça dans un parc d'attractions, t'imagines comme bien ça coûterait. Là t'as eu ça pour juste bouchée de
bah
space,
ouais,
cake.
Ah ouais, c'est clair. Et c'était mais avec un peu de paranoïa quand même, en mode je sentais, je dis ils vont venir me chercher.
On peut faire comme t'as envie, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en mangeant, tu peux avoir peur de mourir, tu vois, c'est des trucs qui peuvent arriver si c'est trop, mais ça va aller, t'inquiète pas, et puis ouais, je serai là, mais...
J'ai pas du tout peur de mourir, en plus. Franchement, si je meurs, c'est une délivrance. Ah, ouh.
Ah bon ?
Tu vois ? Ah ouais, parce que sinon, non, mais tu vois. Moi, j'ai peur de foirer mon suicide, éventuellement. Ça peut être une peur, mais pas de mourir. Si je meurs, c'est... Ah, oh, bon,
parce
ça,
que,
c'est
ouais,
une bonne chose
ça
de faite.
Ça dépend comment tu foires ton suicide.
Ah, t'imagines, tu foires ton suicide, tu jettes du 5e étage, tu te retrouves dans un fauteuil roulant. En France, il y a pas de, tu peux plus. Ce qui est terrible en France, c'est que t'as pas le truc qu'ils ont les Suisses là.
L'euthanasie.
À la limite, si on avait l'euthanasie en France, tu peux foirer ton suicide là, genre arriver. Et l'argument, c'est suicide foiré. Pardon, faites-moi une injection. Mais non, ouais.
C'est dur, moi, tout ce truc sur la mort, parce que j'ai pour le mec qui fait l'injection, je pensais souvent à ça parce que. Je suis contre la peine de mort, par exemple, mais souvent les gens comprennent, ont pas le point de vue du bourreau, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a un mec qui est un fonctionnaire de l'État, qui est payé pour tuer un mec en parfaite santé, quoi. Mais
moi, je pense pas que la peine de mort soit le pire. Je pense qu'il faut trouver ce que la personne déteste. J'en sais rien. Si tu prends un mec
comme dans Fort Boyard, c'est Isha. Ah, c'est les insectes, quand même, dans les insectes.
Non, mais c'est clair. Si c'est, je sais pas, un mec qui est misogyne, tu le mets dans un salon d'esthéticienne et jusqu'à la fin de ses jours, il doit faire des manucures aux meufs et il doit entendre des.
Bah moi, je pense sincèrement que si on mettait pour de vrai des plumes dans le cul. À poil, avec des trucs complètement ridicules et qu'on les. Tu vois, un truc, le
grave.
Walk of Shame en mode vraiment dur, quoi.
Ouais.
Parce que Walk of Shame, c'est pas le même truc.
Les,
mais...
mecs, les mecs qui ont fait des attentats, en fait, faut pas les mettre dans des centres de déradicalisation.
Ouais, mais ouais, tu lui mets une plume dans le cul.
Grave. Faut leur.
Plume violette, là, dans
en
les
fait,
fesses.
Ce qu'il faut leur faire, c'est faire des vidéos virales où tu leur mets des costumes et tu les fais chanter sur Céline Dion. Et pour une humiliation est 10 000 fois pire. Et tu leur demandes de faire ça, quoi.
Tu les mets au Crazy Horse.
Tu Attends,
tu sais
quoi
Horse. Ma parole. Ça se trouve, le mec, là, le terroriste.
Ouais.
Tu le mets au Crazy Horse. Ça se trouve, il kiffe Sarah. Il fait, mais attends, mais j'ai pas du tout envie d'être islamiste. Moi, ce que je veux, c'est être directeur artistique du Crazy Horse. Je vais apprendre la danse. Je vais apprendre des chorés. Et c'est ce que je veux faire. Et ça, c'est un meilleur centre de. Parce qu'un centre de réintégration, tu t'imagines un truc un peu glauque, tu
mais
vois.
C'est sûr.
Alors qu'un truc,
ouais.
Machin. Allez, on sauve les gens avec de l'amour.
C'est clair. Et c'est ce que Marina Rollman, elle dit très très bien dans une de ses chroniques. Elle a fait une chronique extrêmement drôle sur La Nuit Blanche, où elle dit en vrai que des bobos aillent dans des musées ou des théâtres à La Nuit Blanche, ça change rien parce que ça fait que de l'entre-soi. En fait, ce qu'il faut, c'est forcément. forcer des gens qui votent FN à aller voir des seuls en scène et à créer eux-mêmes leur propre seul en scène, tu sais, et à dire, tu vois, et à s'exprimer, à être à la colline, et à faire, enfin, tu vois.
Ça existe presque dans l'autre sens. J'ai été hyper choqué, mais en même temps, chacun ses idées, il les défend comme il veut, mais quand je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand Jean Roucas a voté FN,
ouais.
L'a dit ouvertement et s'est présenté. Moi, perso, j'ai rien compris, quoi. J'ai absolument. Tu sais, je me dis, putain, en fait, ce mec-là qui avait un programme politique de satire politique.
C'est pas la rêve, Jean Roucas, c'était.
C'était un des auteurs du Bébé de Show.
D'accord, ok.
Donc voilà, c'était la concurrence des Guignols. Hein.
Ouais.
À l'époque.
Et il a dit qu'il allait voter FN.
Non, il vote carrément FN. Je crois qu'il s'est présenté sur certaines listes. Ça m'a. Voilà, mais en vérité, il aurait été de gauche. J'ai l'impression que ça aurait choqué personne. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, s'il a des vannes qui vont bien, qu'il a des vannes qui vont bien avec.
Est-ce qu'il y a quand même des humoristes qui vont te choquer ou te déplaire? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'un mec comme Bigard? Que moi je connais très peu, en fait, à vrai dire.
Bon, écoute, j'ai rien à. J'aime bien, ça me fait rire. En plus, j'ai l'impression tu vois, si on lui montre ce côté un peu rabelaisien, grivois, machin, il va le mettre en avant, alors qu'il a plein de sketchs qui sont excellents, qui parlent pas du tout de cul. Mais on va retenir que ça, tu vois, parce que. Donc, le plus dur pour un artiste, c'est de ne pas écouter. Ce que disent les gens et rester dans ce que tu penses toi faire. Si demain Bigard il a envie de faire des vannes sur les fourmis par exemple, d'ailleurs il a un spectacle sur les animaux Bigard, hein. Il a tout un spectacle où il parle que des animaux et puis j'ai pas l'impression que on a trop parlé de ce spectacle, enfin où il a un sketch sur la chauve-souris qui est un sketch très connu, tu vois. Voilà, il a. Après, lui, c'est de la blague.
Les chauves-souris, c'est marrant.
Ouais, il a resté sur le truc.
C'est quand même fou comme animal. Et c'est normal qu'ils en aient fait un film, c'est normal qu'il y ait un super-héros. Parce que la chauve-souris, mais cela dit, je crois qu'on n'a pas encore donné ses lettres d'or à la chauve-souris. Parce que Batman, tu vois Batman, tu ne penses plus forcément chauve-souris. Alors que quand tu regardes une vraie chauve-souris, c'est-à-dire quand même une espèce de rat avec une tête de chat, mais des longues dents et des ailes crochues,
ouais.
Tu te dis, mais. Enfin, observons plus, étonnons-nous, quoi. Ouais. Et ça sert à rien de faire des films d'anticipation sur des créatures qu'on va les pixeliser. Juste rapprochons-nous des chauves-souris. Parce que déjà, ça, en soi, c'est vraiment bien fucked up, quand même, comme truc, tu vois. C'est la chauve-souris, tu vois. Et le croisement, quoi. Chauve-souris, c'est pas du tout chauve, il y a plein de petits poils noirs.
Non, mais en anglais, souris. On dit pas bold mouth.
Bat.
Ouais,
bat. Donc, tu vois, bat. Chauve-souris. Oui, il faudrait voir l'étymologie d'où ça vient. Et c'est quand
comme
même.
Le cochon d'Inde. À quel moment c'est un cochon, ce délire.
J'avoue, c'est un hamster, quoi.
Ouais.
Mais chauve-souris, c'est vraiment. C'est vrai que c'est terrifiant. Et puis, ça. Le, même
c'est
le...
pas terrifiant, moi je trouve
c'est...
ça mignon.
C'est mignon, bah t'as vu les dents quand même du truc. Hein.
Ouais, mais quoi, je connais personne.
Et c'est marrant que ça dorme de. La tête en bas, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même très drôle. Est-ce que c'est parce que c'est pas, je pense que c'est les premiers anti-systèmes, quoi. Tu vois,
je pense que si on a parlé de chauve-souris, c'est parce que Dracula, c'est parce que les artistes, je trouve qu'on a une responsabilité dans beaucoup de choses. Tu vois, les gens qui ont peur des requins à cause des dents de la mer,
tu vois. Les requins n'ont pas une tête très sympathique.
Ouais,
c'est-à-dire que tu vois la tête du requin et la tête du dauphin, tu comprends que.
Alors que les dauphins sont des violeurs. Tu sais que j'ai tout un truc sur les dauphins.
Oui, j'ai entendu, c'est drôle.
Et d'ailleurs, c'est pas bien de dire les dauphins sont des violeurs parce que je trouve ça un peu raciste des dauphins. C'est comme si les Arabes sont des voleurs. Mais on va dire que certains dauphins sont des violeurs.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Écoute, tu sais que ça m'a choqué quand j'ai appris que les dauphins étaient des violeurs. Ça m'a. Parce que j'avais du mal à imaginer la bite d'un dauphin, tu vois. J'avais jamais vu, pensais pas que c'était
et
possible.
Alors ça ressemble à quoi? C'est énorme.
Ils ont des bites, ouais. C'est comme les chevaux, en fait. Tu vois pas de bite, sauf quand il est excité.
Et elle est bleue, la bite?
Elle est blanche, elle est plus blanche. En fait, le dauphin, lui, il est plutôt bleu. Et ouais. Quand la bite sort, elle a une couleur beaucoup plus claire.
D'accord.
Ah, t'imagines, t'as le dauphin qui tourne autour et tu vois sa bite sortir.
Et ils violent des femelles.
Ils violent, mais même les plongeurs.
En même temps, ça doit être compliqué, le consentement. Tu vois, parce que comment ils expriment, genre à quel moment...
En plus, ils peuvent pas se branler, les dauphins.
Je suis pas sûre qu'il y ait que les dauphins qui soient violeurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'animaux violeurs. Parce que je pense que toute la question du consentement est difficile à définir parmi les espèces animales, tu vois. Ouais, c'est genre, vrai. C'est rare que, tu vois, il y ait genre un chat qui dise à la chatte, mais si je tente comme ça, est-ce que t'aimes? Attends, on peut essayer de cette façon. Enfin, tu vois.
Priori... Déjà, les chats, on les connaît, on les a tous castrés, quoi. Je pense.
C'est un peu comme les humoristes en France, les chats. Ils sont tous castrés. Je crois que c'est assez violent, hein, la sexualité animale. Et hélas, je crois que c'est plutôt. Il faudrait voir si c'est une violence qui part des hommes sur les femmes. Je crois qu'il y a très peu quand même de femmes, genre de femelles qui violent des mâles. Je crois que et les cas rares sont très connus, la menthe religieuse ou tu vois qui même pas viole, qui va aller bouffer son conjoint, ouais, tue.
Et le mec, il sait qu'il va clamser, je pense, mais c'est la seule. Enfin, tu vois, t'as 18 ans. 18 ans, c'est l'âge où t'es un peu. Tu pars à la guerre à 18 ans. Tu vois, l'armée n'engage pas des mecs de 40 ans pour. Mais on va faire la guerre. Et je pense qu'à 18 ans, t'as jamais niqué. Je pense que t'es prêt à mourir. Je pense que t'es prêt à mourir. Tu dis bon, je sais que je vais plus avoir de tête, mais tant pis, on y va. Écoute, je pense que peut-être que même dans le monde animal, les hommes n'osent pas dire parce qu'il y a des... Je vais donner un exemple très simple. J'ai déjà eu des...
J'ai déjà violé une meuf. Non. J'avais pas entendu qu'il disait
non. Non, par contre, j'ai déjà eu des rapports, des disputes violentes et j'ai déjà pris des coups de poing. Je lui ai dit, vas-y, t'as envie de taper, bah tape. Tu vois, et puis elle met des coups de poing. Et puis, évidemment, j'ai pas mis de coups de poing. Et je dis, heureusement que j'ai fait des sports de combat, boxe et jiu-jitsu, parce que finalement, tu peux amener. Déjà, la dernière fois que ça m'est arrivé, la mère de la grande là, qui a voulu vraiment me mettre des coups dans la gueule. Puis il y a la petite qui voyait, donc moi je rigolais. Et puis, bah, du coup, ça m'a fait travailler les esquives. Et puis, je trouvais ça cool, ça faisait un entraînement. Mais. Puis le jiu-jitsu m'a permis de bloquer le truc. Mais tu vois, si une nana vient te mettre un coup de poing.
Ouais.
Elle sait pas ce qu'elle fait parce que peut-être qu'elle a jamais pris un coup de poing d'homme dans la gueule et puis nous on peut pas lui mettre le coup de poing parce que bah, en tant que mec de toute façon t'as tout le temps tort. Si t'as tapé une meuf, donc si une meuf te tape et que tu répliques, il y a plus de légitime défense.
Bah non.
Surtout avec ma gueule. C'est-à-dire que moi c'est déjà arrivé que les flics arrivent et qu'ils veulent m'embarquer alors que clairement je me suis pris des coups et j'en ai pas mis. Et ce qui a fait qu'ils me relâchent, c'est que la nana commence à insulter les flics parce qu'ils me menottent pas. Moi, je vous suis, messieurs, je comprends, tu vois. Et, vous ne me notez pas, alors, le danger. Et du coup, bah, mais je me dis...
Tu sais qu'il y a beaucoup de mecs qui tapent leur femme, hein, t'en fais pas.
Ouais, bien sûr, mais il doit y avoir aussi des femmes qui tapent leur mec.
Ouais, mais hélas, là, c'est le déséquilibre des forces qui fait qu'une femme qui tape un homme peut rarement le tuer. Alors qu'un mec, s'il tape...
Ah bon?
Ou alors, faut qu'elle soit... Juste, tu veux dire...
Forte, les armes. Moi, j'ai déjà une nana qui m'a menacé avec... J'ai déjà failli mourir. J'ai déjà failli me prendre un coup de ciseau.
Putain, mais qu'est-ce que tu fais aux femmes pour qu'elles t'envoient autant?
Je les baisse bien.
C'est ça.
Non, mais ça, c'est une
tu
histoire
dois être
de
un
ouf.
Coup de...
Non, non, mais c'était à l'époque où j'étais assez volage. Ouais. Et je raconte cette histoire
ou pas? Ouais. Raconte, vas-y, raconte.
C'est parce que, en fait... Donc, j'étais assez volage. Et puis, bon, j'avais deux meufs. Et j'étais au lit. Et puis, pour être en sécu, donc la nouvelle meuf, j'avais pas mis son nom dans mon téléphone.
Ok.
Donc quand elle appelle.
T'avais remplacé par quoi?
Bah, par rien.
Juste le numéro.
Non, tu remplaces par un nom de mec, mais là, j'ai rien, il y a que le numéro. Donc moi, je dors, et là, coup de fil, le matin, sauf que moi, j'entends même pas mon téléphone, tu vois. Et là, je dors, mais ce que je sais pas, c'est que quand mon téléphone sonne le matin à 8h, la meuf avec qui j'étais, elle prend le téléphone, elle regarde le numéro, et elle appelle de son téléphone.
Oh!
Là, je suis toujours pas au courant de ce qui se passe. S'ensuit une conversation de 45 minutes entre les deux.
Waouh!
Ou attends, il t'a dit qu'il aime. Non, mais tu aimes. J'ai un bidule.
Wow.
Moi, je dors et tout d'un coup, Naman, qui c'est. Je vais changer les noms pour les protéger. Mais,
disons Stéphanie. C'est,
Stéphanie. Et du coup, moi, je fais attends. Et là, il y a tout un truc qui se passe dans ma tête. Je fais attends, est-ce qu'elle peut être au courant de Stéphanie? Comment elle peut être au courant? Non, elle peut pas savoir. Attends, c'est impossible, etc. Et là, je fais c'est rien, c'est une histoire. Attends, je dors, puis on en parle à midi quand je me lève là parce que je suis trop fatigué. Noman, qui c'est Stéphanie? Et là, moi, je suis oh putain. Et là, je suis dans la. Et le rire nerveux qui arrive sur le.
Elle me dit je sais plus quoi machin, et puis elle me balance un premier oreiller dans la gueule, et là je lui dis ouais ça va, calme-toi, et puis elle me fait ouais je sais tout, etc. Et là elle se jette sur moi, donc elle me griffe un peu la gueule, tu vois, machin, je la repousse, et là elle a mon téléphone dans la main, et je me dis putain c'est chaud, et là elle balance le téléphone du cinquième. Et là, je fais, ah ouais, donc c'est sérieux, là. Elle a balancé mon téléphone du cinquième. Je me dis, c'est méga sérieux.
Ouais.
Je me lève, j'ai envie de prendre mes affaires, je me casse, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je ouais. supporte pas ce genre de violence. Je ne vois aucune affaire à moi dans l'appart. Je suis là, je suis en caleçon.
Ouais.
Et là, je la vois, elle prend un ciseau et elle va pour me planter.
Oh, waouh.
Là, moi,
ah
je
ouais.
bloque.
Ah ouais.
Je fais une clé de bras.
Ouais.
Tout le monde doit faire des sports de combat. Hommes, femmes, on fait des sports de combat, on s'entraîne. C'est pas... Tu sais, les gens qui me disent on règle rien par la violence, c'est les gens qui ferment leurs yeux quand il y a des, quand il y a des agressions.
Non, mais après, il y a des hommes qui peut-être font moins bien l'amour que toi, qui sont pas aussi volages et qui se retrouvent pas dans ce genre de situation. Hein.
Aussi, mais pas que pour ça, mais pour plein d'autres choses. Je pense que c'est vraiment utile de savoir se défendre dans la vie. Mais en tout cas, là, j'ai failli prendre un coup de ciseau. Et puis je pense qu'on fait bien l'amour à certaines personnes et pas à d'autres. Tu vois, je pense ouais. qu'il y a des matchs qui se font. Donc la nana arrive. Là, je la maintiens au sol et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je cherche des affaires. Enfin, j'essaie de. Elle a le ciseau dans la main, quoi. Je me dis, j'essaie d'analyser la situation. Et là, elle commence à gueuler. Il me bat, au secours, il me bat. Là, je fais, ah, putain de merde, tu vois. Et j'essaie de lui faire lâcher le ciseau, etc. Et là, ça commence
à. Rire, c'est ton imitation de la femme qui. Il me bat, il me bat.
Ouais, non, parce que je vais pas gueuler dans le micro, mais tu vois. Et là, j'essaie de la bloquer, Et là, ça commence à frapper les voisins, tu sais. Monsieur, faut lâcher là, on va ouvrir, on va défoncer la porte. Monsieur, il faut se calmer là, faut pas taper votre femme, ou je sais pas quoi. Et là, je fais. Oh, bon, là, je suis vraiment dans la merde. Comment je fais? Ok. Wow. Donc, je l'attrape. Je la pousse dans la chambre, je ferme la porte de la chambre. Et là, je me dis, le temps que je lâche la porte de la chambre pour aller jusque là. Bon, je vais faire face aux voisins, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Je suis en caleçon. Je fais, ok, 1, 2, 3. Parce que moi, je me dis, elle va prendre le ciseau, tu vois. Et je peux pas sortir avec le ciseau. Il y a les voisins.
Tu peux pas lui arracher le ciseau des mains.
Non, mais j'ai posé le ciseau, mais elle peut prendre un couteau. Enfin, tu vois, elle peut reprendre le ciseau.
C'est parti, ouais. Pas contente d'avoir été trompée.
Donc, je lâche la porte. Franchement, j'ai fait deux pas, j'ai senti que la porte s'ouvrait.
C'est un film d'horreur.
Ah ouais, je cours, hein. J'ouvre la porte du truc. Le mec me voit en caleçon. Il y avait un mec, attendait, me voit en caleçon. Je fais, faut fermer la porte. Non, mais est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Et là, il la voit arriver comme une furie. Pac, on referme la porte. Je fais tonner la porte. Là, je vois toutes mes affaires sur le palier. Je me rhabille. Le mec tient la porte. Je me casse pour voir mon téléphone parce qu'il y a mon téléphone qui m'attend en bas. J'ai pas envie qu'on me le pique,
tu
vois.
T'as pas été cassé?
Complètement pété le téléphone, mais bon, c'est des mecs qui faisaient des travaux parce que je le voyais pas, et puis les mecs m'ont filé le téléphone.
Heureusement, il y a une solidarité masculine.
Ouais,
et tu t'es séparé de cette nana.
Ouais,
non, vous êtes retournés ensemble. Non. Parce que la baisse qui doit suivre ça doit être assez incroyable.
Ouais, mais c'est très malsain, je pense, comme baise. Mais évidemment, il peut y avoir un truc un peu excitant.
Dans les films, d'ailleurs, il y a souvent ça. Tu sais, moi, je me souviens que quand j'étais petite.
Bah, Nabila, son mec, il est revenu avec elle.
Ouais. Oui, mais même, tu sais, dans le masque de Zorro, quand Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones s'affrontent, il y a une tension sexuelle. Et souvent, moi, je sais que, tu sais, quand t'es petite, moi, ma technique de drague, quand j'étais genre bouboule en CM1, c'était de dire, tu veux faire un bras de fer? Et genre, comme ça, c'était l'occasion de toucher la main du garçon. Et
j'ai c'est mignon.
Et puis, je le laissais gagner. J'ai genre, oh, t'as gagné, t'es trop
fort. Tu vois ce que t'aurais pu gagner?
Ouais, j'étais vraiment bouboule. J'étais certainement plus forte que les garçons avec lesquels je jouais. Ouais. Mais moi, j'ai eu une fois... Attends, j'essaie de penser à une fois où j'aurais pété les plombs de violence. Et je crois que j'ai une anecdote en tête. C'était avec un petit copain. Quand il m'a dit qu'il voulait me quitter, j'ai vraiment eu une réaction de juive sur le moment. J'ai juste pensé thune. J'ai dit, tu me laisses tes 6 prochains mois d'APL. Donc tout de suite, ma réaction, ça a été argent. Et ensuite, 2 semaines après, quand il est venu prendre ses affaires... c'est là j'ai eu tout d'un coup j'avais vraiment pourquoi j'ai eu le cœur si brisé en fait tout d'un coup j'avais beaucoup de violence en moi et j'avais très très peur en fait qu'on se sépare parce qu'on était tout le temps tous les jours ensemble donc je lui disais pourquoi tu et tout d'un coup je comprenais que là il était en train de tout détruire quoi et que c'était terminé et ce que j'ai fait c'est que je l'ai fouetté, mais avec des câbles d'iPhone, donc ça, tu vois,
ouais, bon, ça va.
C'est rien. J'ai déchiré tous ses livres, donc ça, je pense un peu plus relou.
C'est chiant, ouais.
J'étais là, ah ouais, et bah, tes livres de théâtre, hein, tes livres de théâtre, ah, et là. Et donc, et j'étais là.
Putain, ma biographie.
T'inquiète, je la réimprimerai. j'ai déchiré, et donc résultat, j'ai déchiré un paquet de bouquins. Et ensuite, comme j'ai vu que, mine de rien, ça lui faisait pas trop peur et que c'était des vieux folios à 4 euros qui n'en avaient rien à branler, et résultat, j'ai commencé à prendre des verres dans la cuisine et il était contre la fenêtre. Mais cela dit, j'avais mon côté où je voulais pas non plus lui faire mal physiquement. Je voulais pas lui faire mal physiquement, je voulais juste, mais je voulais exprimer ma violence et je savais pas comment et j'avais tellement de peine. Tellement.
T'as fait mal à toi ?
Non, mais j'ai balancé les verres dans la cour. Heureusement que personne n'est passé.
Ah ouais.
Mais j'étais là genre et je balançais les verres, donc j'entendais des cris. Mais même ça, en fait, c'était trop petit, quoi. C'était pas assez. Lui, il était là genre, et il avait un peu peur, mais en fait il avait juste surtout de la peine, quoi. Et il était là, et à un moment il s'est mis sur le lit et là c'est lui qui a fondu en larmes, qui était là genre
oh là là. C'est toujours mélodramatique, ces trucs.
Ouais.
Faut faire gaffe. Hein, quand moi, je sais qu'à un moment donné, elle a lancé le téléphone portable et tu m'as fait rappeler un truc, c'est qu'à un moment donné, elle voulait balancer mon MacBook Pro par la fenêtre. Et là, j'ai fait vraiment comme si j'en avais rien à foutre.
Alors parce que c'est la chose la plus précieuse.
Pour moi, à ce moment-là, ouais. Et en plus, je me disais, mais si ça tombe sur la tête d'un mec, elle va en taule. Donc, vas-y. Ouais, on va voir qui rira le dernier. Non mais là, c'est hyper, c'était ouais, j'avais tellement peur qu'elle balance le MacBook par la fenêtre que je faisais genre c'était pas important. Tu sais comme quand les douaniers fouillent l'endroit où t'as la beuh et tu dois faire genre c'est pas important à ce moment-là et quand ils trouvent pas t'es trop content quoi.
Mais est-ce que c'est pas positif?
Là, ils vont vraiment fouiller consciencieusement les douaniers. Ouais.
Est-ce que c'est pas positif? Une forme un peu de violence, tu vois. Là, je réfléchis à un truc. Je me dis, mes parents n'écoutent pas le podcast, mais quand mon père a quitté ma mère, tu vois, je me souviens, je crois qu'elle était sur son ordi en train de faire des réussites et qu'elle s'est pas arrêtée, tu vois. Et pourtant, après, là...
Ah bah, c'est une belle réussite, pour le coup.
Et bah, au bout de 30 ans, on va se dire au revoir comme ça, allez, prends ta petite valise, va à l'hôtel. Non, mais c'était... Et après, il y a eu, bon, tout ce qu'on a su, sans rentrer dans les détails, mais...
Il a trompé ta mère.
Ouais. Mais.
Mais est-ce que c'est une.
Il a eu une vie parallèle pendant 2 ans avec une autre femme.
Ouais.
Et d'autres choses, mais bref, je m'arrête.
Peut-être une
là.
Vie perpendiculaire, même. Parce que c'est pas... On dit parallèle, mais en réalité.
Et horizontale. et non, mais en fait, c'est marrant parce que ma mère n'a pas vraiment pu, entre guillemets, se venger. Et même au divorce, elle s'est fait couiller, tu vois. Et résultat, je me dis.
Parce que de toute façon, on est couillés tous, là. C'est une séparation, c'est marrant. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a personne qui gagne, personne qui perd, c'est juste deux personnes qui s'aiment plus. Et c'est peut-être la meilleure des choses à faire de se séparer quand on s'aime plus.
Oui, mais peut-être parfois que. Il y a quelque chose dans la folie, de la rage, qui est nécessaire, tu vois. Alors, il faut pas que. Ce qui est terrible, c'est les divorces où tout d'un coup, ça dure des années et c'est terrible parce que ça se retourne contre les gosses et ça devient procédurier, machiavélique. Mais si c'est juste des cris et des larmes, en fait, c'est presque plus une façon d'aller vite, rapidement. Je crois que ce qui est le pire, c'est genre juste le silence ou les larmes tout seul dans le noir. Enfin, tu vois, mine de rien, ma rupture avec ce mec, d'avoir autant pété les plombs, finalement, après, ça a été très facile pour moi de faire le deuil de cette histoire d'amour magnifique qui était ma première histoire d'amour de jeunesse, de couple. Enfin, c'était un truc...
Un mec qui peut être de la bite et qui faisait mal les cunis, tu vois. C'est,
ouais, c'est vrai.
Pas une histoire très préliminaire. Il n'y a pas vraiment...
Et en plus, il voulait tout le temps que je suce. Mais vraiment, ça a été une éducation, hein. Ça, je sais pas si je l'ai dit dans ce podcast, mais il préférait la fellation au rapport sexuel. Tu sais, on dit souvent les femmes sont clitoridiennes, elles préfèrent le cuni au fait de faire l'amour. Mais les mecs, t'as des mecs, c'est juste leur kiff, c'est de se faire sucer et faire l'amour. Genre le rapport bite dans chatte, c'est pas leur truc, hein.
Non, un spectacle, bite dans chatte.
Bite dans chatte. avec le signe comme ça, tu sais.
Bite dans chatte.
Bite dans chatte. Et pour l'anecdote.
Et mortel le film. Bite dans chatte, le retour.
Spin-off, chatte dans bite. Et pour l'anecdote, il m'a même. Une fois, il a été vraiment insistant, c'est quand je venais de me faire arracher les dents de sagesse.
Ah non, mais tu te fous de ma.
Je te jure. Et on était.
Ah non, mais affiche-le. Hey. Attends, mais comment tu peux demander à ta meuf.
Et j'étais là, j'étais avec de hamster.
Non, mais comment il peut te demander une pipe en se feu.
J'étais comme ça, j'étais genre.
Waouh.
J'avais encore. Limite, il m'a retiré les cotons pour mettre sa pipe.
Non, mais tu te fous de ma gueule.
Je te jure.
C'est quoi ça, c'est... Il est ouf.
Ah, putain. Va falloir biper.
Non, on s'en bat les couilles. Tu mets son blaze. Mais c'est quoi ce délire là de. Qui veut.
se faire sucer par sa meuf. En même temps, ta meuf va se faire tirer qu'une fois, elle est dans sa sagesse, donc c'est le moment d'en profiter. Si c'est vraiment ça ton kiff, tu peux le faire qu'un temps limité dans la vie de ta meuf. Après, tu peux plus enlever aussi les molaires, parce que j'aime vraiment le truc de l'arrachage de dents, c'est vraiment ce qui m'excite. Bon, je me fais enlever les molaires, mais...
Enlevez-lui les dents du bas.
Bah franchement, et lui, il sait faire tirer les dents de sagesse ou pas?
Je crois pas.
Parce que, s'il te fait ça, moi je dis, franchement, ouais. Je veux bien, mes prochaines dents de sagesse, qu'on t'enlève, cunis quoi.
Il faisait pas de cunis.
Ouais. Donc s'il faisait pas de cunis, c'est même pas la peine de parler d'anulingus quoi.
Ah non, ouais. Mais alors ça, l'anulingus, cela dit, bonne question.
On l'a déjà fait?
Ouf, oui, mais alors il y a bien longtemps, hein. C'est pas arrivé un petit peu avec un ouais, pourquoi toi tu pratiques régulièrement, hein?
Non, pas du tout. C'est comme les anniversaires.
Mais attends,
donc ça reste exceptionnel.
T'aimes qu'on te le fasse aussi?
Après, faut que tu te sentes bien aussi, même pour qu'on te le fasse, tu vois. C'est un petit plaisir. C'est comme, tu vois, les chocolats, faut pas en abuser.
Oui, c'est ça. Faut que ça reste
exceptionnel.
Ouais, la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est clair. Mais alors, l'adultère, t'en es où aujourd'hui? C'est compliqué ou pas, la fidélité?
Non, pas du tout. Et ce qui est assez étrange, c'est que j'ai trompé, je dis quasi, mais peut-être vraiment toutes mes meufs. Mais j'ai. Donc, clairement, il y avait un truc là-dedans, mais là. J'ai l'impression d'être un agent de la CIA à la retraite, parce que tromper, c'est vraiment prendre des précautions tout le temps, etc. Et là, c'est hyper opposant déjà. Le premier truc, c'est que tu vois, ta meuf, on peut avoir tous les codes, tu t'en bats les couilles, tu caches rien quoi, ouais. Tu vois. Et au-delà de pas tromper, c'est un truc d'honnête. Et puis tu sais, tromper ou pas tromper, c'est pas ça le problème. Tromper, c'est mentir. Parce que si tu penses que t'as besoin d'aller voir ailleurs, tu peux trouver des meufs qui sont d'accord.
Ouais.
Ça doit être très complexe, mais. Ça
mais il y a plein de couples libres.
Ben voilà, donc tu vois, c'est possible. En fait, le truc, je pense que une meuf te pardonnera pas le mensonge, en fait. C'est plus le mensonge le problème. Mais moi, écoute, je suis bien dans comme ça. C'est un moment de vie que j'apprécie. Ce moment-là, dans lequel là, le présent, là, au moment présent où je te parle, là, je kiffe. Que la personne que je regarde dans la glace, je suis content de...
J'ai regardé votre épisode de ton podcast que vous avez fait ensemble, J'irai fumer chez vous,
un avec
épisode
ma femme,
ouais. Trop mignon. Elle est vraiment trop mignonne, trop belle, trop rigolote, elle te regarde avec des yeux d'amour, vous faites rire tous les deux pour des trucs pas drôles. Ouais. C'est là où tu vois que deux gens s'aiment, c'est quand ils disent pull et qu'ils sont tous les deux là.
C'est trop mignon. Il y a un truc un peu comme ça dans l'amour de naïf et en même temps
ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
Ça fait 2 ans et demi, je crois.
Oui, c'est encore jeune, mais bon,
pour moi c'est long. Mais
ah ouais, pour toi c'est long,
enfin c'est pas long, ouais. dans le sens où
elle veut des gamins.
En tout cas, c'est pas si elle veut, c'est à un moment donné c'est notre couple qui décidera si on en veut ou pas. Nous, c'est pas lui ou elle. Je suis content, moi j'en ai déjà deux mères différentes, j'aimerais. En tout cas, si on décide d'en avoir un, c'est que nous décidons d'avoir un enfant qui est pas quelqu'un qui prenne...
Bien sûr, mais elle a quel âge?
Elle est de 84.
Voilà. Oui, donc ça va, il y a encore le temps.
Ça va. Puis, oui ou non. Enfin, tu vois, puis on peut adopter. Enfin, je veux dire, c'est pas, j'ai pas ce truc du sang absolu, tu vois.
Oui, ça peut être le gamin d'un autre.
En vrai, c'est que si toi tu considères que t'aimes un enfant, je veux dire, il y en a déjà des enfants sur Terre, tu vois. J'ai pas ce truc du sang, quoi. J'aime mes enfants, je me souviens par exemple la première.
Je la voulais pas.
Je les aime de tout mon cœur, mes enfants.
Mais t'en voulais pas.
Peut-être plus que si je dis d'ailleurs. Que peut-être que le fait de pas voir ses enfants tous les jours, tu les aimes plus.
Ah oui, c'est sûr.
Mais écoute, c'était pas des projets, mes enfants, qu'on soit clair. Mais c'est clair que je les aime plus que tout au monde aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que le fait d'avoir des enfants, ça m'a posé des questions par rapport à la religion, etc. Ou l'endoctrinement. Tu vois que les enfants, c'est vierge de tout, ça croit tout ce qu'on leur dit. Donc je me dis, putain, c'est fou, ce truc que les enfants soldats, tout ça. J'y pense parce que je me dis, putain, on peut faire croire ce qu'on veut à un gamin.
C'est fou.
Et c'est cool d'avoir ce cheminement spirituel de soi-même.
Toi, t'as jamais cru en Dieu?
Si, bah évidemment, quand j'étais petit, puis après, les choses ont changé. Aujourd'hui, ça dépend de ce que tu appelles Dieu. Je crois pas en Dieu comme un être supérieur qui a pouvoir sur les
Mais
hommes.
comme un voisin sympa qui te dépanne quand
Non, je pense que c'est nous tous qui, ensemble, on, toute l'humanité, je pense qu'elle est connectée. Et voilà, après, c'est chacun ses croyances. Mais tu vois, on peut voir que l'écriture, c'est plus ou moins en même période qu'elle est arrivée. Comment l'être humain évolue. Enfin, tu vois, tout ça, c'est. Je crois que l'être humain n'est plus fort que ce qu'on pense. Je pense que l'état d'esprit dans lequel tu es fait beaucoup sur ta vie à toi.
Parce que c'est un truc, j'ai l'impression que c'est une question. L'autre jour, j'étais dans les loges du Paname et il y a un mec qui a dit qu'il lui se sentait un peu insulté par le spectacle de Lamine Lesgate, que moi j'ai beaucoup aimé à Posta, qui disait que c'était un spectacle de traître parce que c'est un musulman qui fait applaudir les Français sur le fait qu'il a décidé de plus être musulman. Et c'est marrant parce que tu vois, alors là, moi, c'est des questions. Auquel que je découvre un petit peu, parce qu'avant, à base, moi je suis comédienne, mais je viens du théâtre subventionné où tu as 99,9% de blancs athées d'origine catholique qui sont de gauche et donc, tu vois, islamophiles et laisser les femmes avec leur voile, mais de loin et sans connaître, tu vois. Donc quand je me retrouve au Paname dans ces débats-là, c'est la première fois que je me trouve aussi proche de. Musulmans parlant de leur sensibilité et de la façon dont ils doivent ou pourraient ou devraient en parler sur scène et que je me retrouve aussi face à des humoristes blancs qui disent il y en a marre d'un certain d'humour communautaire et qui en veulent ou même des humoristes rebeux qui en ont marre que d'autres humoristes rebeux fassent applaudir dans la salle qui sont algériens etc. Mais tu trouves ça pas trop intéressant comme débat?
Alors, je m'en bats les couilles total. Je me dis, chacun fait ce qu'il veut. Je m'en bats les couilles. C'est pas mon humour, mais ça peut être l'humour de certains. Ça fait. Ouais,
Mais ça t'énerve pas. Non,
je
tu t'en
m'en
fous.
bats. Vraiment,
Ouais.
je pense que chacun fait ce qu'il veut. Je m'en bats les couilles. Ouais,
Mais attends, et toi, quand tu parles du fantasme des femmes voilées,
ouais.
t'as eu un backlash de ça ou pas?
Pas encore, vu que j'ai pas mis encore sur internet, mais ça aurait été. En plus, je l'ai amélioré ce sketch depuis la captation. Donc, il y a deux trois sketchs que j'ai améliorés depuis la captation, que j'ai capté ça en juin, il me semble. Je vais le mettre en fait, je voulais le mettre en ligne directement. Puis, on m'a demandé de faire des dates à gauche à droite, ce qui m'a fait vraiment plaisir. Et toujours des théâtres privés. Hein. Et j'ai du coup, à force de le jouer, bah, j'ai trouvé des trucs, j'ai appris des choses. Par exemple, Mia Khalifa, qui est une actrice porno qui avait des sketchs où elle est voilée, a reçu des menaces de mort de Daesh. Et du coup, moi je me disais, mais attends, mais ça veut dire que les mecs de Daesh, ils se branlent dessus, quoi, parce que
C'est
ils ont
sûr.
regardé les films pour machin. Et du coup, je me posais cette question-là. Et ça existe, je veux dire, je suis pas en train d'inventer un truc. Il y a vraiment des films avec des meufs voilées dans le porno, et quoi, il y a
Et
des
ça, est-ce
films
que
de bonnes sœurs.
tu l'as joué dans des salles où il y avait des femmes voilées dans le
Oui,
public?
oui.
Et comment elles ont
Bah,
réagi?
ça aurait été là. Alors, c'était au point virgule quand j'ai commencé à faire ce truc. Et tu vois, il y a une mezzanine sur la droite. Et sur la mezzanine, une femme voilée avec son mari. Et moi, je sais que le sketch arrive. Et je me dis, est-ce que je le saute ou pas? Parce que, est-ce que
Non.
c'est. Et je me dis, mais si je le saute, qui suis-je?
Ouais, bien
Qu'est-ce que je
sûr.
fous?
Bien
Je fais ce
sûr.
métier.
Bien
Donc,
sûr.
je décide de faire le sketch. Et à un moment donné, je me retourne vers la dame et je lui dis, bah, je te regarde parce que de toute façon, je fais ce sketch de femme voilée sur le. Tout le monde te regarde. Et en même temps, on va pas se mentir, de toute façon. Tout le monde te regarde dans la rue. T'es voilé. T'as vu l'ambiance qu'il y a en
Est-ce que
France en
tu
ce
peux
moment?
rappeler un peu le sketch, ce que c'est?
Bah, j'expliquais que, voilà, je racontais une fois où je m'étais branlé sur la catégorie femme voilée sur YouPorn. Les gens disaient, quand tu tapes femme voilée dans la barre de recherche YouPorn, tu vas en enfer direct. Et tu rigoles aussi. Et, et d'ailleurs, faut pas. En vrai, vu que c'est les films, les sites la plupart sont en anglais, tu tapes plutôt niqab, tu tapes. Ouais, tu peux vraiment aller loin ou tu tapes juste Muslim Girl. Enfin, tu vois, t'as plein
D'options.
d'options, ouais. C'est souvent des latinas qui jouent.
Des latinas qui jouent des rebeux.
Ouais, parce que tu la retrouves, parce que tu tapes le nom et puis après t'as le nom de la star qui joue la rebeu et puis tu. Hop, oh, c'est une latina en fait, Rosa là. Enfin, tu t'appelles Rosa, mais rien à
Bah,
voir.
c'est moi en fait.
Mais c'était toi.
Mais oui, je fais pas mal de porno à côté. Bah, tu sais, le
Voilà.
podcast, c'est pas comme ça que je paye mon loyer.
Ouais, j'imagine. Je sais ce que c'est que le monde du podcast.
Et alors, la meuf au point virgule, elle réagit comment?
Bon, ils ont rigolé. Alors, elle, après, moi, après le spectacle, en général, je suis avec les gens. Donc, je serre la main à tout le monde, je dis au revoir à tout le monde. Elle a baissé les yeux. Puis le mari m'a serré la main, il a rigolé, quoi. Il a trouvé ça marrant.
Elle a quand même baissé les yeux ?
Bah, elle était gênée, quoi. Elle était très timide. Hein. Ouais. Elle était plus de la timidité. Elle n'était pas dans un délire de soumission ou quoi que ce soit. Elle s'est marrée pendant le truc.
Ouais,
et elle a baissé les yeux. Elle était hyper gênée, comme si j'avais fait un sketch sur les Asiatiques et que je me branle beaucoup sur Asiat. Je pense que la meuf, elle aurait été un peu gênée. Et puis le mari à côté. C'est pour ça que je suis. Voilà, tu vois. Il y a un fond. Les mecs, déjà, on aime bien souiller ce qui est pur, tu vois. Il y a un délire un peu comme ça. Et les dents de sagesse.
Ah oui, c'est rigolo. T'as aussi parlé de prout au point virgule.
Mm-hmm.
Du prout dans...
Ça, tu vois. Alors, j'avais entendu Talking Funny avec, entre autres, Ricky Gervais et Seinfeld et CK et Rock qui discutent ensemble. Et Gervais, il avait fait un truc qui m'a dit... Ok. Gervais, il dit qu'il enlève de ses DVD, qu'il avait édité les moments où il parle de prout.
Ah ouais.
Parce qu'il dit que c'est très marrant les proutes, etc.
Très marrant.
Et Seinfeld, il lui dit, mais tu devrais pas les éditer, etc. Et CK dit derrière, parce que moi, quand j'ai commencé à parler de proutes, les gens rient, d'accord ? Oui, les gens rient.
Les gens adorent ça.
Et CK dit un truc qui est très malin. Il dit, alors effectivement, il faut peut-être pas être le mec le plus intelligent du monde pour faire des vannes sur les proutes. Par contre, il faut vraiment être très con pour pas en rire.
Ouais.
Voilà, en gros, et puis... Bah voilà.
Quelle intelligence, Louis C.K. quels sont tes humoristes préférés aux États-Unis?
Même dans le monde. Gervais, j'aime énormément. C.K., j'aime énormément. Bill Burr, je crois que j'ai des choix assez classiques, j'ai l'impression. J'aime bien les démarches de certains.
Andrew
Schultz. En France, j'aime assez les mecs avec qui je traîne, en vrai, tu vois. Mmh. Les humoristes qui sont avec moi, je suis content de faire ces plateaux, je suis content de ce qui se passe dans l'humour en France, je suis content que les gens...
Le Barbès sur les soignants.
Oui, ça c'est des amis proches.
Mmh.
Sébastien Marx, Warren Hichen, tous ces gars-là. Au Canada, j'aime bien Mike Ward, Sugar Sammy... tu vois, je suis très très friand. Bah, Yacine Bellous, c'est des potes. Et puis j'aime Tania Dutel, Blanche, tu vois je regarde.
Tu connais Blanche Garde?
Ouais, je connais. D'ailleurs, c'est mais vas-y. Blanche, c'est vraiment une fille super cool.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais.
Moi je la vénère, quoi. c'est vraiment pour moi, c'est la meilleure humoriste en France.
Blanche, elle a un registre très trash.
Ouais.
Et elle peut parler de trucs vraiment trash. Et si Blanche parlait de bites qui puent, on ne lui dirait pas qu'elle fait du Jean-Marie Bigard.
Non.
Et après, il y a un truc avec Jean-Marie Bigard, c'est qu'il y a un truc de raconter. Moi, on n'est plus dans la blague, en fait. On est dans ce qui va faire rire. Parfois, c'est l'empathie. Tu ressens ce que je ressens ou pas? Et du coup, je crois pas que je raconte de blagues en vrai sur scène.
Des anecdotes de vie que tu partages.
Voilà, et que tu transcendes, parce qu'il s'agit pas de montrer un album photo de famille, ça peut vite être chiant. Par contre, un photographe qui fait des photos tous les jours depuis toute sa vie, qui va prendre ses vacances en photo, peut-être qu'il va faire un truc de ouf et qu'il va pouvoir en faire une expo, mais parce que le mec fait des photos tous les jours. Donc l'album de famille d'un mec qui fait pas beaucoup de photos parce qu'il est parti à Val Thorens faire des photos, voilà, quoi qu'elles peuvent être très belles aussi, mais un mec qui va faire des photos tout le temps et puis il va faire une exposition Val Thorens et faire des photos très travaillées, très soignées sur Val Thorens, et voilà, et puis ça va être autre chose, tu vois. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, parce que c'est au-delà de la vie qu'on raconte, on sait pas que notre vie, c'est que notre vie est un support pour exprimer pourquoi on pense comme ça. Et pourquoi cette pensée, et l'humour c'est un moyen merveilleux de pouvoir s'exprimer, parce que c'est un mix de divertissement et d'informatif, et parce que l'informatif tout seul, bon bah tu prends l'informatif et puis c'est cool, mais bon ça peut au bout d'un moment c'est relou, et puis le divertissement tout seul c'est aussi marrant, mais bon qu'est-ce que t'en retiens, puis c'est cool de pouvoir mélanger les deux, et puis d'avoir un fond surtout dans ton propos, d'avoir un propos, en vrai, tout simplement.
D'avoir envie de partager. C'est vrai que toi, ce qu'on sent, c'est aussi l'envie de connecter, de partager.
Au-delà de ça, quand je monte sur scène, je m'étais dit, par exemple, il y a des gens que j'ai peut-être pas envie d'avoir dans mon public. Tu vois, tu peux te dire ça, par exemple, des gens que, avec qui je suis en conflit, etc. Et en fait, ça m'a aidé à aimer tout le monde parce que quelqu'un qui va être négatif vis-à-vis de toi, il a des raisons, il a quelque chose, peut-être qu'il est lui pas bien, etc. Et en fait, ça fait très vive l'amour, mais quand je monte sur scène, on peut m'énerver, on peut faire ça, mais je foncièrement, je pense que j'aime vraiment les gens. Tu vois, quand je suis sur scène, j'ai vraiment l'impression d'aimer le public qui est là. Je suis avec eux, j'ai besoin qu'on se sente proche parce qu'on va partager un moment. Tu vois, tu mets un peu de l'intimité, c'est pas que de la vie, ce qui est le plus intime, c'est ton opinion.
Et comment, pour les gens qui, comme moi, démarrent, tu pourrais donner comme conseil de, par exemple, moi j'aimerais tendre à ce que tu décris, mais j'ai l'impression que pour le moment, si les gens rigolent à mes blagues, je les aime, s'ils rigolent pas, je les déteste et je veux les tuer. Comment arriver à les aimer dans tous les cas?
Ben, tu travailles. Parce que je vais te dire un truc qui m'est arrivé. Des fois, je me fais des petits entraînements comme ça. J'ai joué dans une chicha il y a pas longtemps. On m'a proposé ça. Et des fois, j'aime bien me faire des petits trucs. Je sais que c'est un public qu'on peut dire difficile ou qui rigole à certains types de vannes. Et j'ai pas envie d'amener de leur. Des fois, t'as pas envie. C'est comme un prof de maths. Si t'aimes pas les maths et tu vas en cours de maths, d'office, bah t'aimes pas les maths. Et des fois, il y a des profs qui te font aimer les maths alors que t'aimais pas les maths. Donc j'essaie de faire des choses comme ça. Et il y a un mec au premier rang qui voit l'agressivité dans son regard. Et puis je lui parle et puis il me fait « Ouais, on me regarde pas, etc. » Je commence à le vanner. Il me dit « Ouais, je vais te terminer.
Oh, » wow.
Il me dit « Je vais te terminer. »
Oh mon Dieu.
Et très agressif comme ça. Et bon, après, c'est vrai que moi, j'ai pas peur des conflits, en fait.
Ouais. Oui, puis t'es cool. Fort.
Je sais pas si je suis fort, mais en tout cas, je peux me battre avec le sourire. J'ai pas besoin de m'énerver pour me battre, tu vois. Du coup, je peux être dans un truc où c'est cool. Mm. Et puis, je lui dis, mais t'es une petite tête de doudou. Enfin, tu vois, je pense qu'une compagnie de jouets devrait. Et ça, je sais que c'est venu comme ça, de l'amour que j'ai pour. Alors que lui était agressif. J'allais dire, j'ai envers des peluches avec ta tête. Et, et ça va être mignon, je ne t'en veux pas, mon pote.
Et il a bien réagi quand tu lui as dit, genre, tu as une peluche avec ta tête.
Il était pas bien, il est ressorti, il est revenu. Je fais, bah, t'en vois là, etc. Et à un moment donné, il a voulu. Je sais pas, il a été un peu agressif. Il y a un des vigiles qui a fait, on se calme, monsieur.
Ah oui, quand même.
Et le mec, machin. Et là, je lui ai dit, ouais, parce qu'il était très agressif.
Ah ouais.
Et puis en plus, voilà, maintenant, t'es devenu tout rouge. Oh. J'allais vraiment, je cherchais. Et puis j'aurais dit, tu fais un peu honte à des amis, regarde, cool. Moi, je ne t'en veux pas, je te le dis, je ne t'en veux pas. On va être ensemble, on est cool. Voilà, tu te rends compte que je te dis que t'es mignon. Après, j'ai quand même rajouté, t'es mignon. Mais quand tu fermes ta gueule, en plus, t'as l'air intelligent. Donc, regarde. Ouais, j'étais. Bah, dans la vanne, toujours.
Mais donc t'as très bien géré ça.
Peut-être que des fois je gérerais pas bien, mais là, en tout cas je suis
et c'est avec l'expérience. T'étais comme ça dès le début, t'avais ce feeling là
non
ou...
c'est pas que, c'est l'expérience et puis on peut être énervé, ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller avec les gens du public. Je dis pas, des fois on est des humains et on peut péter les plombs, ça m'est arrivé. Mais faut vraiment être concentré sur finalement j'aime bien les gens, moi, tu vois. Donc on va, même si le mec s'il est agressif, c'est qu'il va se sentir attaqué. Moi je vous dis simplement, je suis pas en train de t'attaquer, on est dans un spectacle d'humour. On va faire des vannes, mais moi je ne te veux pas de mal, je suis gentil, je te veux pas de mal, je vais te vanner exactement de la même manière que je vanne mes potes. Des fois je dis à mes potes qui puent. Et puis c'est aussi ça. Après tu peux jouer sur il est vrai, ben, parce que quand on est pote on se vanne et surtout on est honnête. Donc si je dis que tu pues, c'est que tu pues. Faut faire quelque chose. Ça, tu peux l'amener dans un truc où tu faut le faut, voilà, c'est tu joues, hein, c'est notre travail, c'est de jouer. Attends, avec les...
trop fort.
Mais, arrête. Mais c'est à force de monter sur scène, tu vas ça, en fait faut monter sur scène un maximum et se prendre des bides.
Ouais, bah les bides, à la limite, bon, j'apprends à parfois à les gérer, à genre à avancer. C'est juste parfois, j'ai du mal sur des plateaux tardifs, genre 1h du mat, etc., où ça peut être des publics un peu comme ceux que tu retrouves en chicha.
Ouais.
Je vais.
D'ailleurs, mais... c'était très tard, hein. S'il devait être minuit et demi,
ouais, c'est ça. Ce truc, et moi, je deviens un peu maîtresse d'école, en fait. C'est ça, je suis là, et eh ben maintenant, il va falloir arrêter de parler quand je parle. Et c'est l'enfer, quoi, ça marche pas du tout.
Ouais. Il y a plein de choses, puis tu vas te poser, tu vas dire qu'est-ce que je peux dire s'il dit ça,
c'est ça. La dernière fois il y a un mec, pourtant je racontais pas des trucs très compliqués, mais j'ai joué très tard et puis je disais, je faisais une blague sur le truc en ce moment où je disais, a-t-on le droit d'être islamophobe? Non. A-t-on le droit d'être cuniculophobe? Et avant d'expliquer que cuniculophobe c'est pas la peur des cunis, c'est la peur des lapins, en fait cette blague est à moi, hein.
Ouais.
Mais il y a un mec dans le public qui va faire, ouais, de toute façon toi depuis le début je comprends pas ce que tu dis. Et là, les gens ont ri méchamment dans le public en solidarité avec lui contre moi. Et je là, genre, yes. Et c'était un peu dur.
Et t'as pas répondu.
Si, j'ai répondu. J'ai dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va sur Google, retourne à l'école. Moi, je peux rien faire pour toi. Mais en fait, je suis passée pour une grosse connasse et les gens se sont dit pour qui elle se...
Parce que tu y a plein de manières de faire. Tu peux dire que tu as plein de manières de faire ça, mais il faut que tu trouves ta manière à toi aussi de gérer ça. Mais en vérité, si toi tu le prends cool, tu fais bon, bah on va discuter ensemble alors.
T'as raison, en fait, je pense que c'est juste qu'il faut pas que ça me blesse. Donc là, c'est des petites questions rapides pour finir, style un peu du questionnaire de Proust.
Ouais.
La qualité que tu apprécies le plus chez tes amis ?
La qualité que j'apprécie le plus chez les gens, ça serait l'honnêteté en général.
Et tes amoureuses ?
Pareil, j'aime bien les rapports sincères chez les gens. Je pense que ça. Ça fait du bien, on peut débattre de tout, on peut ne pas être d'accord, et c'est tellement même cool de ne pas être d'accord et de pouvoir débattre. J'aime pas les gens qui vont arriver avec des idées stop, arrêtez, et qu'il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à parler. Normalement, si tu es sûr de toi, tu peux clairement discuter calmement. Et Schopenhauer qui a écrit un essai qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison, et en fait, quand tu lis ça, c'est que les gens ne veulent plus avoir raison, ils veulent gagner. Une argumentation. Moi, je suis prêt à ce qu'on fasse dire que j'ai de la merde, et puis je dis bon, bah voilà, j'ai pas l'argument qui va contre. Et je suis vraiment, c'est un travail sur soi de se dire ok, vas-y, je prends sur moi. Le plus important, c'est on peut me convaincre du contraire de ce que je pense, tu vois. Mais j'ai assez d'arguments. Si je pense quelque chose, c'est que j'ai les arguments pour défendre mon propos, quoi.
Tu parles français, tu parles anglais, d'autres langues ?
L'arabe, là, ouais. J'ai joué récemment au Barbès Comedy Club en arabe, qui est un plateau assez cool. C'est la première fois que je joue en arabe. Je sais que, voilà, c'était plus dans le challenge que j'ai fait. Je sais, peut-être qu'un jour je le ferai, mais en plus, moi, je parle un dialectal irakien.
Ah oui.
Donc peut-être que je ferai ça un jour, aller jouer en Irak.
Ta mère, pour les Irakiens. Elle est kurde ?
Non, il est Bagdadi.
Ok.
Donc vraiment, ouais. Irak sunnite, Saddam, quoi.
Voilà. Ok, autre podcast. Je me risquerai pas. Mais alors, Saddam Hussein, allez, venez, on en reparle pendant une heure.
Ouais, on peut, hein. Ouais. Il y a même plus qu'une heure à dire.
Ouais, mais... c'est clair. Et bah, ça m'amène à ma dernière question. Comment souhaiterais-tu mourir?
J'hésite entre plein de manières. C'est étrange. Peut-être soit en faisant l'amour, soit en faisant. Peut-être en tombant. Je ne sais pas. Je t'avoue que. De toute façon, quoi que j'ai comme envie, je sais que ce sera la surprise. j'ai envie d'être surpris par la mort, hein, déjà. Hop, c'est maintenant. Mais quoi que, tu vois, c'est. C'est vrai que quand tu parles, j'ai vu un documentaire sur un gamin, et puis il savait que son père allait mourir du cancer. Et il disait que la chance qu'il avait, le père et l'enfant, quand ils parlaient ensemble, c'est qu'ils savaient quand ça allait arriver. Et donc ils avaient le temps de se préparer.
Ouais.
Maintenant.
Mais c'est beau ta réponse. En faisant l'amour ou en tombant. C'est incroyable comme réponse.
Ah ouais, ouais. Je sais pas pourquoi c'est quand qu'on dit. Toi, tu sais quoi, la manière dont tu aimerais mourir.
Moi, je veux mourir sur scène. Truc trop.
Par contre, c'est chiant pour la meuf, hein, si tu meurs en faisant l'amour.
Oh, putain, c'est clair.
C'est vraiment égoïste. C'est vraiment très égoïste, parce que elle. Oh, putain, c'est chiant. Je sais plus, il y a un mec qui faisait une vanne là-dessus. Je crois que c'est un Américain. Malheureusement, je sais plus son nom. Mais quand les gens savent, t'as l'enterrement et les gens savent comment le mec est mort. La meuf, je pense que personne ne la touche pendant au moins un an, quoi.
En tout cas, moi, je veux pas de mort rigolote. Je veux pas, genre, mourir d'une noix de coco.
On avait commencé à écrire une série. Ah, la noix de coco, c'est dur. Ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Tu sais qu'il y a, à La Réunion, il y a plus de gens qui meurent de noix de coco qui leur tombent sur la tête que d'attaques de requins, tu vois. Ça, c'est la mort que je veux pas. T'imagines, une noix de coco qui me fracasse le crâne.
Les cocos sont complètement légales. Hein. Personne n'est mort du cannabis, c'est pas légal. Alors, une noix de coco qui tue.
T'imagines, tout le monde se tape des fous rires à ton enterrement.
C'est pas grave, moi, ça va.
Ah non, moi, je veux que les gens soient tristes.
Ouais.
Ça, c'est un truc sur lequel je fantasme un peu, tu vois.
Mais t'es plus là pour savoir, donc
ouais, mais je veux quand même que tout le monde chiale et que quand même, tu vois, ce soit pas... Moi, j'ai pas du tout envie que ce soit genre à la sud-américaine et qu'il y ait une grande danse et plein de fruits, etc. pour mon enterrement. Je veux que ce soit glauque, que les gens soient tristes, qu'elles se disent elle est partie trop jeune, enfin, plein de trucs un peu tristes. Toi, tu t'en fous.
Ouais. que les gens, les vivants, fassent ce qu'ils pensent que... ce qu'il faut faire, quoi. J'avais un truc sur le don d'organes.
Et là, je dois faire mon truc, donc je sais pas si je vais le mettre dedans ou pas encore. Il faut que je le teste. Je sais pas si j'ai le temps, mais je me disais quand même, c'est un vieux truc que je pensais, mais tu sais, il faut donner son après la mort. Il y en a qui veulent pas donner leurs organes parce qu'ils pensent que c'est faut pas, etc. Et moi, je pense que ouais, peut-être c'est bien de donner les organes si tu peux sauver des vies. Mais il y a des organes, t'as intérêt à prévenir ta famille parce que j'ai vu un article il y a pas longtemps. Il y a un mec qui s'est fait greffer le visage. Et je me dis, t'imagines, t'as perdu Didier, ton pote Didier, il est mort. Et 2 ans plus tard, t'es au feu rouge. Et là, le mec, il te traverse, il te dit merci, quoi. Et là, tu vois la tête de Didier, tu fais, attends, non, mais waouh. Wow. Et puis, si tu ne sais pas que...
Merci, Nomanosni.
Merci, merci beaucoup, c'était cool.
Ah là, trop drôle. Alors, est-ce que cet épisode avec Nomanosni vous a plu ? Que pensez-vous de l'anulingus, du suicide, de l'euthanasie, des chauves-souris, des méthodes de déradicalisation avec ou sans plume dans le cul ? Don d'organes, tête de Didier ? Moi, je vous avoue, je suis fan de Noman. Et d'ailleurs, j'ai participé à son podcast à lui, que vous pourrez retrouver sur sa chaîne YouTube, dans la série « J'irai fumer chez vous ». Vous pourrez également retrouver Noman sur les plateaux à Paris. Dépêchez-vous de le voir sur scène au Barbès Comedy Club avant qu'il parte aux US. Moi, il va trop me manquer, je le trouve trop fort, trop drôle, trop gentil, fou, et ça fait du bien. Vive les fous, vive vous, vive nous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.